BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Aude Kersulec.
Bonjour et bienvenue dans notre demi-heure de bourse estivale. En ce mercredi 12 août, on retrouve des marchés financiers bien dispersés entre les États-Unis et l'Europe. Moins 0,5% en ce moment pour le CAC 48 664 points. Ça a été indécis jusqu'en milieu de journée. Des bourses qui ont du mal à s'accorder. Et ce chiffre du jour qui est tombé à 14h30, l'inflation américaine comme prévu, conforme aux attentes, 3,4% au mois de juillet. Sur un an, donc pas de grosse surprise. Ça n'a pas enthousiasmé les marchés européens. On a même le DAX qui s'est retourné là en fin de séance dans le rouge, lui qui évoluait dans le vert une bonne partie de la journée. Les marchés américains sont de meilleure humeur. On est à le Nasdaq qui progresse de 0,4%. Le S&P plus 0,2%. Le Dow est en ce moment légèrement dans le rouge. Mon invité en plateau, c'est vous, Alexandre Baradez. Bonjour.
Bonjour, Aude.
Chef analyste chez IG, on revient évidemment sur cet événement de la journée, ce qu'on a attendu quand même depuis le début de semaine, l'inflation américaine. Alors, 3,4% au mois de juillet sur un an, c'est un ralentissement par rapport au mois précédent, 3,5%, et c'est conforme aux attentes. C'est donc bien.
Oui, alors c'est vrai que il y a deux sujets. Il y a la tendance de l'inflation. C'est vrai que si on prend l'inflation globale, qui est celle qui était surveillée aujourd'hui, elle était il y a deux mois un peu plus de 4%. Le mois précédent, 3,5%. Et là, on revient à 3,4%. Donc la tendance sur deux mois est quand même plutôt un léger ralentissement. Mais c'est vrai que le niveau absolu reste quand même élevé, voire très élevé. 3,4%, c'est très loin des 2%. Et alors, on sait que la Fed ne regrette pas forcément cette mesure spécifiquement. Elle, ce qu'elle aime bien, c'est la mesure PCE qui va arriver à la fin du mois, quasiment au même moment que le symposium.
On va reparler de la Fed, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre, justement? Il y a toujours les chiffres de l'énergie, évidemment, qui sont un gros moteur à cette inflation. Chiffres d'énergie et les prix aussi des billets d'avion.
Voilà ça, donc tout ce qui est service, en fait. On voit qu'au niveau des États-Unis, la partie service reste toujours la zone que la Fed surveille. On rappelle pourquoi ? Parce que les services, hein, c'est quasiment 80% de l'activité économique aux États-Unis. Donc l'inflation, déjà avant le début de la guerre en Iran, avait toujours une inflation qui était toujours assez ancrée dans les services. Et la guerre en Iran est venue rajouter un boost d'inflation, surtout par les prix d'énergie. Et donc c'est vrai que quand on regarde la partie cœur de l'inflation, sur la mesure PCE dont on parlait, qui n'est pas celle du jour mais qui sera dans quelques jours, avant la guerre en Iran, était déjà à 3%. Donc ça veut dire que la Fed, le seul problème de la Fed n'est pas la guerre en Iran, n'est pas que le pétrole. C'est qu'il y a une inflation qui est un peu plus historique, un peu plus ancrée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit tombé pile en ligne avec le consensus sur les mesures mensuelles et sur les mesures annuelles, c'est vrai que le marché hésite un petit peu parce que, et à la limite, tant mieux, parce qu'en plein milieu de l'été, si vous aviez une mesure très au-dessus ou très en dessous, les mouvements de marché, bien sûr, parce que Kevin Warsh donne très peu d'indications au niveau de ce que va faire la Fed. Donc finalement, c'est pas trop mal qu'en plein milieu de l'été, on soit tombé sur une mesure pile en ligne.
Le core CPI, l'inflation core, elle est quand même à 2,5%.
Oui.
C'est bien moins élevé, mais c'est toujours au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. Là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est propagé, mais c'est pas non plus catastrophique.
Non, voilà, ça reste collant. C'est une inflation qui est collante. Et donc, ce qui fait que la Fed, elle est bloquée. C'est ça qu'on voit depuis des mois, en fait. Jérôme Powell l'était déjà avant Kevin Warsh. Kevin Warsh l'est aussi, sachant que les présidents ne décident pas tout seuls. Le comité décide pour eux, enfin, décide pas pour eux, décide pour la politique monétaire. Mais c'est toujours au-dessus. Et 2,5, encore une fois, c'est pas la mesure privilégié par la Fed. La Fed a mis l'inflation PCE, core PCE, c'est dont on parlait à l'instant, et le core PCE, c'est actuellement plus de 3%. Donc, il y a la partie sous-jacente. Pourquoi la Fed aime bien cette mesure-là? Parce que ça enlève le bruit, ça enlève la volatilité. On enlève l'alimentation, on enlève l'énergie, donc c'est la partie qui est plus inerte et celle qui traduit finalement le plus la tendance inflationniste. Donc, c'est vrai que c'est pas une mesure incroyable, c'est pas une inflation galopante comme c'est le cas post-Covid, mais on rappelle, ça fait 5 ans consécutifs que l'inflation sous-jacente aux États-Unis, cette fameuse inflation core, eh bien, n'est pas revenue à l'objectif. Et 5 ans, c'est trop pour la Fed, pour sa crédibilité.
Ce corps PCE, alors ce sera à la fin du mois, hein, le 26 août. En attendant, il y aura aussi Jackson Hole à la fin du mois, Kevin Warsh qui va s'exprimer. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il commente ces chiffres d'inflation. Lui, il ne veut pas donner d'indices en fait, sur ce qui va se passer à la prochaine réunion.
C'est ce qu'il nous a bien fait comprendre. Très clairement, si on n'a pas encore compris, il le répète quasiment à chaque fois, c'est qu'en gros, il laisse les marchés découvrir les data, la fameuse data dépendance. Il veut que les marchés soient dépendants des données économiques et fassent leur job. Et j'ai envie de dire, c'est aussi une forme de stratégie quand même, parce que justement le fait que les marchés aient moins d'indications de la Fed, on voit que les taux ont du mal à se détendre. Alors ça, c'est pas très bien pour le trésor américain, parce qu'ils en prennent plus cher. On l'a encore vu hier avec des emprunts à 3 ans bien plus chers qu'il y a quelques mois. Mais en revanche, ça fait le job d'un point de vue justement de l'inflation, c'est-à-dire des taux plus élevés, taux souverains plus élevés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des coûts de crédit immobilier plus élevés, des coûts de crédit consommation plus élevés, et finalement ça suffit à faire un peu pression sur l'économie pour qu'à un moment donné l'inflation ralentisse. Donc sans que la Fed ait besoin, pour l'instant en tout cas, de relever ses taux, le fait de laisser les marchés mariner en quelque sorte et douter du prochain mouvement, bah, ça maintient les taux américains sur un niveau élevé, et finalement ça restreint les conditions financières sans que la Fed, pour l'instant, ait besoin de relever les taux.
4,66% pour le 10 ans américain. Alors vous tablez plutôt sur une hausse septembre ou alors octobre. Là, le marché est partagé. Il y a toujours une 40% pour le mois de septembre. Oui. On se décide plus sur une hausse en octobre.
C'est élevé. C'est vrai que celle de septembre, des probabilités, on rappelle, ces probabilités sont déterminées par les instruments financiers, par le prix des instruments financiers. Donc le marché considère qu'il y a à peu près 40% de chances d'une hausse en septembre. Et si on regarde les projections en fin d'année, il y a toujours plus de chances d'avoir au moins une hausse de taux que pas de hausse de taux. Mais ces probabilités évoluent en temps réel. En prenant un cas très concret, si dans une semaine, la situation se détend vraiment sur le front géopolitique, que le pétrole retombe à nouveau de 10-15% très rapidement, vous verrez que tout de suite les taux américains vont descendre également. Et dans ce cas, les probabilités de hausse de taux vont s'évaporer, ou en tout cas, les probabilités, oui, de hausse de taux. Et on aura une probabilité de statu quo qui sera majoritaire. Donc ça dépend quand même beaucoup de ce qu'on voit sur le front de la géopolitique. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que les membres de l'administration américaine, comme Scott Bessent il y a quelques jours, moi je n'aime pas trop ce genre de comportement parce que ça fausse finalement un peu le marché, mais on comprend lui pourquoi il a fait ça. Mais il l'a dit il y a une semaine, le détroit va être réouvert là dans un ou deux jours, ce sera fait, parce qu'il sait que ça va faire baisser le prix du pétrole et parce qu'il sait que du coup les taux vont baisser et que ça va donner une petite bouffée d'oxygène comme ça au trésor américain. Donc tout est très très lié quand même à ce qu'on voit sur le front géopolitique, mais ne pas oublier quand même que avant la géopolitique, en janvier, février, mars, l'inflation était quand même au-delà de l'objectif. Donc la géopolitique est venue rajouter une surcouche d'inflation qui était quand même déjà présente avant.
On va faire un tour du côté de la Bourse de Paris puisque le fixing a eu lieu, ça y est. La cloche a sonné et c'est du rouge qui l'emporte ce soir à Paris. -0,6%, 8661 points. C'est même un mouvement plus clair que les jours précédents. C'est la deuxième séance de rouge de suite à Paris. C'est même plutôt uniforme sur les marchés européens puisqu'on a le DAX aussi qui n'aura pas un record de clôture ce soir puisque là aussi lui il s'est retourné -0,26% et à Londres également une variation à la baisse -0,2%. Alors on a eu quand même quelques valeurs qui se sont démarquées lors de cette journée. TKMS, on est dans le militaire à Francfort, +9,6% après une publication ce matin des révisions d'objectifs à la hausse, une anticipation d'ailleurs d'une demande plus importante, notamment en matière de frégates et d'engins nettoyeurs de mines. On parlait à l'instant de la géopolitique. Ça a poussé un peu tout le secteur Rheinmetall aussi, qui prend 2,5%. Thalès également à la hausse à Paris. En revanche, sur le DAX, on avait SAP qui reculait de 2,5%. Et puis à Paris, c'est Essilor Luxottica qui perd plus de 4,5% en cause une procédure pénale qui pourrait être engagée en Allemagne. Il y a une plainte pénale, en tout cas, qui a été déposée contre les lunettes connectées. Alors Meta est également concerné par cette plainte, mais en tout cas ça a bien pénalisé Essilor Luxottica cet après-midi à Paris. Des ajustements aussi de recommandations et d'objectifs du côté du luxe qui ont été pas favorables aux valeurs parisiennes. Kering en baisse de 4%, LVMH aussi en baisse. Allez, tout de suite on refait la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
On parle des niveaux techniques d'abord avec Gilles Santacreux, fondateur du site boursicoté.com. D'abord le CAC 40, les volumes sont relativement faibles, hein, tout juste 3 milliards d'euros échangés. Faiblesse des volumes, on manque d'impulsion, Gilles ?
Oui, on a un petit signal de retournement aujourd'hui. 8674, ça va. On préserve l'essentiel. On a un CAC 40 qui subit un petit peu la baisse que l'on a sur certaines grosses pondérations comme LVMH, L'Oréal, Total Energy ou Hermès, hein, qui ont des pertes assez conséquentes. Malgré tout, on reste dans une configuration de fond qui reste plutôt positive. Hein. Tant que l'on ne casse pas la zone des 8640 points, on peut parler de consolidation, mais d'une dynamique qui reste haussière. Donc, on a 8640 à surveiller. ensuite, en cas de cassure, on aurait 8560 points. C'est vraiment sous 8560 points que l'on pourrait avoir des signaux un peu plus puissants. Mais c'est vrai qu'avec les volumes que l'on observe aujourd'hui, on peut dire que bon, il n'y a pas péril dans la demeure. On a une petite phase de consolidation qui arrive après des signaux d'essoufflement. Bon, rien de très grave. À voir un petit peu si la situation géopolitique permet de se débloquer. C'est vrai qu'on a eu une petite phase de baisse qui a démarré après l'ouverture des marchés américains à 15h30, mais qui pour l'instant sans conséquence. Donc zone à surveiller 8640, 8560. On reviendrait sur un marché plus fort et plus haussier si les cours repassaient au-delà des 8740 points.
Oui, je rappelle le fixing de la Bourse de Paris, -0,46% à 8674 points. On a aussi le DAX qui s'est retourné pendant la séance. Comment ça s'est traduit techniquement? Il a terminé à -0,24%.
Oui, mais entre-temps, il a marqué un nouveau record en séance. On a marqué un nouveau plus haut, exactement à 26573 points. Donc là aussi, ça s'inscrit dans une poursuite d'un mouvement haussier, puisqu'en inscrivant un nouveau plus haut historique, eh bien, on entretient la dynamique haussière court terme. Donc le DAX est beaucoup moins vulnérable à la configuration actuelle, ce qui fait dire que c'est un petit peu le luxe en ce moment qui tire le CAC 40 à la baisse. Donc nouveau record pour le DAX. Certes, on clôture dans le rouge, mais dans une configuration qui reste positive et on pourrait même parler de configuration dynamique. Donc globalement, c'est, je dirais que par rapport à ce qui se passe aussi du côté des États-Unis, la baisse que nous observons sur le CAC 40 aujourd'hui n'est pour l'instant pas une zone d'alerte forte d'un point de vue technique en tout cas.
Merci Gilles. Côté valeurs, le chiffre de la journée était américain. On va regarder du côté des valeurs américaines avec Étienne Monceau de Zone Bourse. Merci à vous de nous accompagner, Étienne, en ce mercredi du mois d'août. On va revenir sur certaines publications tech donc aux États-Unis qui sont bien accueillies. Alors parmi elles, il y a notamment CoreWeave et Supermicro, des bons à deux chiffres pour ces deux actions, +19% et +13%. Avec respectivement un relèvement de prévision pour CoreWeave et une marge brute meilleure qu'attendue pour Supermicro.
Oui, alors effectivement, on va parler États-Unis principalement ce soir avec moi et NeoCloud en particulier, les résultats de CoreWeave et de Nebius et aussi de SMC effectivement qui a publié. On va ensuite parler, je vais faire un petit mot sur les résultats, cette saison de résultats de manière générale, puis enfin parler de l'euphorie sur le marché des options. Alors pour ce qui concerne CoreWeave et Nebius, qui sont toutes les deux des entreprises du NeoCloud qui ont publié, qui viennent tout juste de publier, le narratif est extrêmement fort, les guidance sont relevés et la surprise était effectivement sur la marge d'exploitation de CoreWeave qui passe de 1% à 5%. Les CEO des deux entreprises respectivement sont très convaincants, ils vont vous dire que la demande est toujours extrêmement forte, que ça leur permet de conclure des accords à des prix de plus en plus intéressants, et que ce business ne fait que commencer, qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. J'aimerais cependant nuancer un petit peu ces propos, rappeler que ces entreprises du NeoCloud sont possibles, en fait, le business existe seulement grâce aux autres acteurs de l'IA qui sont, eux, beaucoup plus solides, et en fait, qui financent, notamment les hyperscalers comme Google, Amazon, Alphabet, etc., qui financent directement ces entreprises par le biais de commandes et de gros acomptes. Ces entreprises, comme CoreWeave par exemple, c'est un retour sur investissement actuellement de 1% et c'est un coût d'endettement de 10%. C'est des business qui, dans la nature, ne devraient même pas exister. En tout cas, pas à cette vitesse, ne devraient pas être développés à cette vitesse. Mais grâce à ces financements via Acompte ou, par exemple, Nvidia, qui va jusqu'à garantir les prêts de ces entreprises qui achètent des puces Nvidia, évidemment, pour alléger un petit peu leur coût d'endettement, c'est grâce à cet écosystème que ces entreprises existent. Donc le narratif a beau être extrêmement fort, il faut toujours être vigilant et ce sont des entreprises extrêmement volatiles. Quand une entreprise, on le rappelle, est capable de faire un plus 10, plus 20, plus 30 à la hausse, elle est aussi capable de faire moins 10, moins 20, moins 30 à la baisse. Donc ça, c'est pour CoreWeave, Nebius et en particulier. Et j'aimerais aussi rappeler que ces trois entreprises qui ont publié aujourd'hui sont parmi les top 10 des valeurs les plus shortées par les hedge funds. Hedge funds qui ont d'ailleurs augmenté leur position nette vendeuse sur ces titres-là au cours de juillet. Donc il semblerait qu'on ait un petit désaccord entre les hedge funds qui, eux, shortent de plus en plus ces titres et au contraire, le retail qui les achète massivement. Il faut rappeler qu'en juin, le mois de juin 2026, le retail a acheté 4 fois plus de titres qu'ils l'ont fait en juin 2025. Donc, on a peut-être un potentiel short squeeze aussi qui s'opère puisque ces hedge funds sont positionnés vendeurs et que le retail les achète en masse, ce qui potentiellement peut expliquer une partie de cette hausse qui est assez considérable.
Et Étienne, vous aussi, vous
maintenant,
vouliez
parler... Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des earnings. Oui.
Oui, Étienne, justement, vous aviez une statistique dont vous vouliez nous parler. Ça concernait l'indice de la volatilité, le VIX, dans la journée du 4 août. Et d'ailleurs, toute cette semaine-là, vous nous dites qu'il y a eu un record, le plus gros volume d'achat de call sur le VIX de toute l'histoire. Alors, racontez-nous.
Oui, alors ça, c'est une stat qui est absolument, enfin, que je trouve très intéressante et qu'on lit nulle part pour l'instant. C'est que les calls, en fait, alors, pour faire simple, de manière générale, les institutionnels, quand ils vont sur le marché des options, c'est pour acheter des puts, des options puts, qui permettent de protéger leur portefeuille. Normalement, quand on regarde les prix des puts et des calls, on a des puts qui sont un petit peu plus chers que les calls. Pourquoi ? Ben justement parce qu'il y a cette demande structurelle de protection de leur portefeuille. Et là, actuellement, il y a 35% des valeurs du S&P 500 qui ont ce qu'on appelle un call skew inversé. Ça veut dire que ces valeurs, on observe que les calls qui sont out of the money sont plus chers que les puts qui sont out of the money. Ce qui est tout simplement la conséquence d'un achat massif, d'un intéressement du marché pour des calls. Une aversion au risque peut-être qui chute tout simplement et des gens qui sont prêts à acheter, enfin qui vont sur le marché optionnel pour parier sur une hausse. Et le truc, c'est que le VIX, qu'on appelle aussi indice de la peur, il est le reflet de la volatilité implicite, c'est-à-dire de la volatilité qu'on peut attendre dans le futur qui est pricée par les traders sur le marché des options. Et on dit que c'est indice de la peur parce que justement, de manière générale, on a plus des puts qui sont plus chers que des calls, on a plus d'achats de puts. Mais il faut se rappeler que cet indice, VIX, il ne prend pas la volatilité implicite que des puts, il prend la volatilité implicite des puts et des calls. Ce qui fait que là, si on a un changement de la composition finalement de cette volatilité implicite que fait paraître le VIX, bah peut-être qu'en fait, c'est pas le bon nom, indice de la peur, mais qui va progressivement devenir l'indice de l'euphorie si on continue d'avoir comme ça des achats massifs de call.
Ouais, on comprend effectivement que le rapport de force s'est inversé. Merci Étienne. Alexandre, est-ce que vous avez vu ça vous aussi chez IG, des achats massifs de call sur le VIX ?
Non, pas forcément chez nos clients, parce que nous, ils traitent directement les indices, les actions ou autres via le cash ou les dérivés, c'est-à-dire en gros des produits dérivés ou des actions en direct. Mais c'est vrai qu'on a quand même observé des mouvements ce jour-là sur le VIX, ça a un petit peu bougé quand même sur l'indice de volatilité, signe qu'il s'est passé des petites choses quand même. Mais c'est vrai que pour compléter ce qui a été très bien expliqué, c'est que l'indice quand même depuis plusieurs jours et semaines maintenant, il est quand même très bas. Il faut donner quelques niveaux parce que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément ce genre d'indice. Effectivement, on l'a dit, c'est l'indice de la peur. Donnons quelques repères. Quand tout va bien sur les marchés, quand tout se passe bien, le VIX, il est de manière assez large, entre 10 et allez, 15, 20 maximum. Quand on commence à stresser un petit peu, 20, 30. Et puis, quand ça commence à... le stress est plus marqué, 30, 40. Et puis, 40 et au-delà, 50. Ça commence à être la panique. Et quand vraiment c'est la crise majeure, type subprime, type crise Covid, on peut penser jusqu'à 80.
Donc, là, on est à 14,8, voilà. Donc là, on est bien en ce moment.
Voilà, c'est une mer de tranquillité dans laquelle nous sommes actuellement. Et c'est ça qui, effectivement, soulève un peu des questions, parce que si on est sur d'autres indicateurs qui traduisent aussi l'exposition dans le marché, on sait que les Américains aujourd'hui, par exemple, dans leur patrimoine financier, sont très, très exposés aux actions, ouais, sur des niveaux quasiment records. Les gérants de fonds aussi aux États-Unis, leurs réserves de cash sont très faibles. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que le cash a été alloué à des prises de position dans le marché. Et donc, il y a des gens assez peu couverts, finalement, dans le marché aujourd'hui. La couverture peut arriver un petit peu, parce qu'on voit que les plus sont un peu allés sur l'obligataire depuis quelques semaines, l'obligataire américain, rappelons-le, avec des taux à 30 ans à plus de 5%, bah vous garantissez un super rendement sur les 30 prochaines années. Donc ça peut pousser certains à arbitrer un petit peu, mais si on regarde juste la couverture par ces produits financiers qui permettent de se couvrir contre un risque, bah le prix de la volatilité, le prix de la couverture contre la volatilité est très peu cher. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché n'est pas très positionné pour faire face aux risques. Si demain un risque surgit d'un seul coup, eh bien on va avoir une ruée vers ces produits de couverture qui sont très peu chers aujourd'hui en fait, et donc ça peut laisser penser qu'effectivement le marché, est-ce qu'on parle d'euphorie, peut-être pas forcément, mais un marché voilà qui me semble très peu couvert par les différentes mesures qu'on peut avoir de ces instruments de couverture contre la volatilité.
Justement, on va voir les signaux techniques sur cet indice de la volatilité. On se reconnecte avec vous, Gilles. Qu'est-ce que vous avez repéré sur le VIX ?
Sur le VIX, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que depuis quelques jours, donc le VIX, il est corrélé, inversement corrélé au S&P 500. On a d'ailleurs le contrat futur S&P 500 VIX, dont l'échéance, c'est, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, le 18 ou le vers ces eaux-là, qui baisse alors que le S&P 500 ne bouge plus. Ça traduit ce qu'Alexandre a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, on a des investisseurs qui ne se couvrent plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on favorise plutôt un mouvement haussier. Le VIX, l'indicateur de volatilité, il est revenu sous les 15 points, ce qu'on n'avait plus vu depuis le début de l'année, hein, c'est-à-dire c'était le niveau où on était au début de l'année 2026. Et donc, ça montre que les investisseurs croient à un apaisement du marché et donc une meilleure aversion au risque. Donc, techniquement, effectivement, le fait que l'on revienne sous les 15 points est un signal plutôt encourageant pour la suite, même si sur le S&P 500, on ne voit pas encore de nouveaux records aujourd'hui, hein, puisque sur le S&P 500, on est sur des marchés qui sont assez stables en ce moment, hein, on n'a plus trop bougé sur les 5-6 dernières séances. Mais ça veut nous dire que pour la suite, eh bien, les investisseurs voient plutôt une hausse et que donc, comme l'a expliqué Alexandre, effectivement, on a une couverture qui baisse donc sur les valeurs de cet indice. Donc techniquement, effectivement, on a des cassures de zones de support que l'on avait depuis maintenant quelques mois, qui peuvent nous rendre plutôt optimistes pour la suite, mais qui veulent dire aussi que si le marché se retourne, eh bien, on pourra avoir des réactions beaucoup plus fortes sur cet indice de la peur.
Merci Gilles. Oui, le S&P 500 qui n'est pas encore un record, qui a une cinquantaine de points de son record, 7741 points cet après-midi contre 7793. C'était le record ces derniers jours. On est stable, tiens, sur l'euro-dollar 1,1540. Je voulais revenir avec vous, Alexandre, sur cette opération pour sauver l'yen. Alors, c'était au début, fin juillet, début août, pour soutenir le yen, une opération conjointe entre le Japon et les États-Unis. Ça pose plusieurs questions. D'abord, aujourd'hui, Bloomberg dit que même si on a vu les États-Unis voler au secours du Japon, en réalité, ils n'auraient pas la même vision de ce qu'il faudrait faire. Bloomberg dit que Scott Bessent, lui, il aimerait bien que la Banque du Japon monte ses taux.
Oui, il aimerait ça parce que, rappelons d'ailleurs rapidement pourquoi le yen a autant baissé. On rappelle, le yen est tombé sur un plus bas de 40 ans face au dollar, pas un plus bas historique, mais un plus bas de 40, voilà, donc, et ça glisse depuis des mois, des années, parce qu'il y a des questions structurelles. Enfin, très simple, c'est des écarts de taux. La réserve fédérale américaine a un taux directeur aujourd'hui un peu là de 3,50, là où la Banque du Japon a un taux directeur à 1%. Donc cet écart de taux, il génère quoi? Il fait que des investisseurs, bien empruntés en yen, c'est pas cher, et reventent ce capital, investissent ce capital sur des actifs américains bien mieux rémunérés. Donc ça fait pression à la baisse sur le yen, et ça renchérit le dollar. Et sa mécanique qui est là, pas pour du spéculatif, c'est parce que les conditions sont là, parce qu'il y a aussi un petit peu de doute sur la capacité du Japon à tenir un budget bien équilibré, parce qu'ils font aussi de la relance économique. Donc oui, c'est aussi un petit doute par rapport à la trajectoire du Japon. Donc pour changer ça, pour éviter que ce yen ne glisse, bah effectivement, vous l'avez dit, il y a quelques jours, opération conjointe entre les États-Unis et le Japon pour cesser l'hémorragie. Mais la question, c'est que si vous ne changez pas les bases dont on vient de parler, si ces écarts de taux entre la Fed et la Banque du Japon restent ce qu'ils sont, pourquoi les investisseurs ne continuerez pas à vendre du yen, ils vont continuer à le faire. Donc, pour les inciter à ne plus trop vendre le yen, il faut rendre les actifs japonais plus attractifs. Et comment on le fait? Par exemple, en augmentant les taux pour la Banque du Japon, ça réduirait cet écart. Sauf que la Banque du Japon, il va doucement, parce que si elle relève trop ses taux, c'est un coût du crédit qui se renchérit pour les ménages, pour les entreprises.
Là, les investisseurs anticipent une hausse de taux lors des prochaines réunions, mais ils auraient pu faire une hausse d'urgence. Oui. Ça se justifiait quand même.
Ça se justifiait, mais par contre, d'un point de vue marché, souvenez-vous ce qui s'était passé il y a 2 ans, c'était au début de l'été, en 2024, la Banque du Japon avait un peu surpris tout le monde. On attendait une hausse de taux, mais plus tard dans l'année, et boum, juste avant l'été, elle relève son taux.
Le gros remous, elle.
Voilà, donc tout le monde s'est dit, oh là là, là, ils sont en train de bouger les taux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Justement, on a vu ce qu'on appelle des débouclages d'opérations de carry trade. C'est-à-dire, on a assisté à un débouclage exprès d'opérations spéculatives qui jouaient sur le différentiel de taux. Et souvenez-vous, ça avait fait baisser l'indice japonais, le Nikkei, qui est l'équivalent du CAC 40 pour le Japon. Le Nikkei avait perdu 30% en l'espace de quelques semaines. Et souvenez-vous, ça a touché aussi un peu l'Europe. Le CAC avait baissé, les marchés américains aussi. Donc, c'est très sensible quand on touche les taux au Japon. Donc là, il est très probable, effectivement, vous l'avez dit, que, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de sources, hein, des agences de presse japonaises, ont indiqué que dans les discussions pour que les États-Unis interviennent aux côtés du Japon, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait pour éviter l'instabilité, ils auraient en gros, quelque sorte, obtenu des garanties implicites que la Banque du Japon allait effectivement relever ses taux au mois de septembre. Donc les probabilités sont assez élevées pour que la Banque du Japon bouge ses taux. Et ce qu'il faudrait, c'est que les États-Unis, eux, ne bougent pas leurs taux. Comme ça, si les États-Unis relèvent leurs taux aussi, ce que le marché peut pricer un petit peu, l'écart se maintient finalement. Donc il faudrait que la Banque du Japon bouge seule pour que finalement cet écart se restreigne et que finalement il n'y ait plus besoin d'intervenir sur le marché d'échange, comme l'ont fait les États-Unis et le Japon.
Mais pour comprendre, pour les États-Unis, c'est quand même positif ce carry trade, parce que il y a toujours de la demande pour leurs emprunts obligataires.
Oui, mais
ça nourrit la demande.
Oui, ça nourrit, mais vous avez plusieurs aspects. Quand une devise aussi baisse beaucoup, comme c'est le cas depuis des années, ça rend vous, États-Unis, vos exportations moins compétitives. Ça rend l'exportation japonaise plus compétitive et les vôtres moins compétitives. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est sûr que le risque, si le yen, et c'est pour ça que je pense que les États-Unis veulent que la Banque du Japon bouge ses taux, c'est parce que le risque, c'est que si le yen glisse beaucoup plus vite, que la Banque du Japon soit tentée, pour refermer sa devise, de vendre des actifs américains. Et dans ce cas-là, c'est un des gros détenteurs, le Japon, de bons du Trésor américain. Si, en mode un peu panique, on vend beaucoup de bons du Trésor, la conséquence, c'est quoi? C'est que les taux américains se tendent beaucoup plus, ce qui est déjà un problème actuellement pour les États-Unis. Et que dans ce cas-là, vous avez des réactions de marché beaucoup plus violentes aussi aux États-Unis, instabilité financière, et ça, c'est jamais souhaitable.
On sait que Scott Bessent regarde beaucoup le 10 ans américain. Alors, on a aussi cette opération, elle s'est faite en vendant des euros. C'est la Fed de New York qui a vendu des euros pour acquérir du yen. Ça s'est fait pas tellement dans les règles de bonne séance de politique monétaire, on va dire, parce que la BCE ne l'a appris que le lendemain. Il y a eu un échange téléphonique entre Scott Bessent et Christine Lagarde. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ils se sont dit?
Et ils se sont parlé le lendemain, effectivement. Et ça qui est important de dire, c'est que ça n'a pas été les Européens n'ont pas été prévenus d'avance, alors que c'est des, comme vous l'avez dit, les règles qui étaient un peu en vigueur depuis pas mal de temps. C'est qu'entre pays occidentaux, quand on doit bouger pour intervenir sur le marché d'échange, qui est assez rare, on prévient quand même à l'avance, pour ne pas justement que ça génère éventuellement une certaine volatilité inattendue et des réactions un petit peu stupéfaites de la part de la BCE. Donc ça, c'est pas trop, et selon moi, ça s'inscrit dans cette dégradation qu'on a malgré tout des relations États-Unis-Europe sur différents aspects, géopolitiques, militaires ou autres. C'est une manière aussi pour les États-Unis d'affirmer que les États-Unis priment d'abord, c'est l'America first, on va dire un peu monétaire, et que finalement, on prévient les Européens quand on estime que c'est bon de le faire. Sachant que les Américains aussi avaient le choix. Ils pouvaient essayer de vendre des dollars ou de vendre des euros. Et voilà. Et pourquoi ils n'ont pas vendu les dollars? Parce que s'ils vendaient des dollars pour raffermir le yen, ça pouvait, je ne dis pas que ça aurait été le cas, mais ça pouvait envoyer au marché le signe que les États-Unis sont d'accord pour que leur devise se baisse un petit peu, un dollar plus faible. Et un dollar plus faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation importée aux États-Unis est plus importante, vous payez vos importations plus chères. Or, les États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, ont un problème d'inflation collante depuis des années maintenant. Donc, ça aurait été un mauvais message pour le marché. Donc, on peut comprendre stratégiquement pourquoi ils ont fait ça, mais ça n'aurait pas coûté grand-chose de passer un petit coup de fil à la Christine Lagarde avant de le faire, et ça n'a pas été fait. C'est surtout ça qui était souligné dans ce...
Oui, c'est quand même un coup en douce qu'on va retenir de la part des États-Unis. C'est déjà la fin de ce BFM Bourse. Merci à mes trois invités, Alexandre Baradez en plateau, et bien sûr en visio, Étienne Monceau de Zone Bourse et Gilles Santacreux. On se retrouve dans quelques minutes pour le BFM, le 18h éco.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.